Bonjour, si je ne vous ai pas encore salué. Consolez-vous les uns les autres. Consolons-nous les uns les autres. C'est la troisième exhortation dans notre série de cette année, les uns les autres. Si on se rappelle, la première exhortation et le thème pour cette année, c'est aimez-vous les uns les autres. Et la deuxième exhortation du mois dernier, quand Patrick nous a prêché là-dessus, c'était prier les uns pour les autres. Et aujourd'hui, consolez-vous les uns les autres. Comme Sylvain l'a dit, quand nous préparions cette semaine passée, nous étions loin d'imaginer ce qui se passerait vendredi soir, ces heures terribles. Ces heures où 129 personnes ont perdu leur vie et 352, je crois, ont été blessés, dont 199 grièvement. Ça a choqué Paris, ça a choqué tout le pays. Et nous avons, j'imagine, tous besoin d'être consolés. Et nous avons tous besoin de partager la consolation, comme le Seigneur nous le dit ce matin. Alors je prie, on prie ensemble que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Jésus, vivant, nous ouvre le cœur pour recevoir une consolation de sa part quand il nous parle. Et nous trouvons cette exhortation dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Donc je vous invite à le trouver dans votre Bible si vous en avez une. Je vous invite à trouver le quatrième chapitre d'un Thessalonicien. Un Thessaloniciens 4. Et on va lire à partir du verset 13. Écoutons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En nous basant sur ce passage, nous allons méditer ce que c'est la consolation et nous allons méditer comment nous pouvons partager la consolation comme Paul nous l'exhorte ici. Alors, je vais commencer par la fin. On va regarder l'exhortation là dans le verset 18, notre exhortation pour ce matin. Paul écrivait cette lettre en grec, et si on fait la traduction littérale en français du verbe que Paul utilise quand il parle de consoler, la traduction plus ou moins littérale serait appeler auprès de soi. Appeler quelqu'un à ses côtés. Appeler quelqu'un auprès de soi, du genre « Viens, on va parler ensemble. » C'est ça la façon dont on peut traduire « consoler » ici. Donc l'exhortation, c'est de s'approcher les uns des autres. L'exhortation, c'est que nous nous approchions les uns les autres. Rapprochez-vous les uns des autres. Appelez-vous les uns les autres. Serrez les rangs, comme on peut le dire aussi. Il y a dans le grec du Nouveau Testament aussi un autre verbe que l'on traduit aussi en français « consoler ». Et cette traduction, si on fait une traduction littérale, donne « parler au cœur de quelqu'un ». Consoler, parler au cœur. Là, vous avez un exemple dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. À ce moment, Lazare, l'ami de Jésus, Lazare, le frère de Marthe et Marie à Béthanie, meurt. Et nous lisons que beaucoup de Juifs dans ce village à Béthanie étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Pour les consoler, littéralement, pour leur parler au cœur. Ainsi, consoler, c'est être aux côtés d'un frère ou d'une sœur. C'est se rendre proche de lui ou se rendre proche d'elle pour leur parler au cœur, pour parler à son cœur. Consolez-vous les uns les autres, rapprochez-vous et parlez doucement. Mais la grande question, c'est que dire? Comment consoler? C'est ça la question. C'est ce qui est difficile, c'est de savoir quoi dire. Et nous allons passer le reste de ce message ce matin à répondre à cette question. Que dire pour consoler? Dans le passage que je viens de lire, Paul commence... Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il paraît là que les membres de l'Église à Thessalonique ont perdu des proches, qui sont en deuil, qui sont dans la douleur. Et Paul... Là, il constate que leur douleur est composée de trois éléments. Il cible trois éléments composant de leur douleur. D'abord, il constate l'ignorance. L'ignorance, c'est chez ces chrétiens qui ne savent pas véritablement ce qui se passe après la mort pour les chrétiens. Ensuite, dans la douleur, il y a l'affliction. La douleur de la perte, la douleur de la séparation. Et puis, il y a le désespoir. Le désespoir, la crainte que leur vie de foi soit vaine. L'ignorance, l'affliction, le désespoir, tout cela ensemble crée une douleur aiguë, n'est-ce pas? Et les paroles de consolation que Paul apporte ont pour but de dissiper l'ignorance. Ces paroles ont pour but de soulager l'affliction et de chasser le désespoir. Et c'est cela que je voudrais que nous retenions ce matin. Dans la douleur, il peut y avoir de l'ignorance ou un questionnement. Il peut y avoir ou il y aura sans doute une affliction et peut-être du désespoir. Et selon les cas, quand nous consolons les uns les autres, nous essayons de dissiper le questionnement, de dissiper l'ignorance. Nous essayons de soulager l'affliction et nous essayons de chasser le désespoir. Voilà les trois points que nous allons voir ce matin. Et pour résumer, on peut se rappeler peut-être les paroles du chant « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Vous vous rappelez le chant? Et le chant dit entre autres, là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Ces quelques lignes disent tout sur la consolation, n'est-ce pas? Alors, si vous les retenez, vous pouvez prier pendant le reste ou récupérer un sommeil perdu si vous avez passé les nuits, les dernières nuits éveillées. Là, j'ai tout dit, je vous rassure. Mais maintenant, il y a aussi, je vais introduire aussi un exemple concret à étudier. Comment faire ça concrètement? Et donc, pour chaque point, nous allons regarder de près l'exemple de Jésus. C'est toujours le meilleur exemple à suivre, n'est-ce pas? On va étudier son exemple, l'exemple qu'il nous donne dans l'épisode dont j'ai déjà parlé. La disparition de Lazare. Là, Jésus arrive à Béthanie 4 jours après l'enterrement de Lazare. Il retrouve tout le village en deuil. Et si nous suivons ce que fait Jésus, nous allons regarder au fur et à mesure comment Jésus console cette famille, ce peuple en deuil. Pour que nous en tirions des leçons, pour que nous en trouvions un exemple à suivre. Comment apporter la consolation, comment consoler, surtout par nos paroles. D'abord, comme je l'ai dit, consoler, c'est dissiper l'ignorance. Consoler, c'est dissiper le questionnement. Paul a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. L'ignorance fait souffrir. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. Et si on n'a pas de réponse, on s'inquiète. Et c'est pire si on se pose les mauvaises questions. Les questions qui n'ont pas de réponse. Si on se pose des mauvaises questions, on se retrouve renfermé dans un cercle vicieux. Les questions n'ont pas de réponse. Pas de réponse, c'est l'inquiétude. Et on se pose encore des questions. Et là, à ce moment-là, dans ce cercle vicieux, il faut justement quelqu'un pour nous aider à dissiper le brouillard. Le brouillard d'un questionnement inutile. Il nous faut quelqu'un pour nous aider à reposer les bonnes bases pour nos pensées. Les bonnes bases qui nous donnent les certitudes fondamentales dont nous avons besoin. Ainsi, Paul, pour éclairer ces lecteurs qui sont affligés par la perte et le deuil et qui se posent des questions sur les chrétiens et qu'est-ce qui leur arrive après la mort, Paul affirme 2 choses. Verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est la première affirmation. Jésus est mort, il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Deuxième vérité, Dieu va ressusciter ceux qui sont décédés, les frères et sœurs en Christ qui sont décédés, seront ressuscités. Et là, dans les versets 15 à 16, Paul explique que ce sera lors du retour de Jésus. Versets 15 à 17, « Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pour les chrétiens, la mort n'aura pas le dernier mot. Sylvain nous l'a rappelé aussi pendant sa présidence. Jésus est déjà ressuscité et quand il reviendra, il rassemblera les siens, les morts et les vivants. Et ces mots nous rappellent tout de suite les paroles de Jésus à Marthe. Quand Marthe pleurait la mort de son frère. Alors si vous voulez bien, retournons à l'évangile selon Jean, chapitre 11. Et je lis à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quelle parole de consolation ! L'affirmation de Jésus dit tout pour Marthe qui se posait des questions. Pourquoi Lazare est-il mort? Pourquoi Jésus n'était-il pas venu plus tôt pour l'empêcher? Et Jésus dit tout simplement, il ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Quand il y a les interrogations, quand il y a un questionnement, quand il y a un brouillard dans notre tête, qu'est-ce qui dissipe ce brouillard? C'est se rappeler la confiance en Jésus. C'est se rappeler, nous rappeler les uns les autres à la confiance en Jésus. À cette certitude de base que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Il a vaincu pour nous le mal et la mort. Et qu'il reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui. C'est cette confiance en Jésus qui est la base de notre vie, qui doit être la base de nos pensées. Il y a un refrain qu'on chante surtout à Pâques. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Vous le connaissez? Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. J'imagine si Monique, notre sœur Monique, était là encore parmi nous, elle nous ferait chanter « À toi la gloire ». Je voudrais rajouter une petite mise en garde. La consolation évite la spéculation. La spéculation sur les choses que nous ne connaissons pas parfaitement. La spéculation, c'est vouloir construire des théories pour satisfaire à notre questionnement. La spéculation, c'est trouver des réponses aux questions comment et quand. Pour satisfaire notre tête qui demande comment et quand. On remarque dans cet épisode, Jésus ne répond pas aux questions. Il y a beaucoup de questions. Jésus ne répond pas aux questions. Quand il console Marthe, il ne dévoile pas ce qu'il va faire. Il la rassure simplement en disant en gros, « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Et donc pour retourner aux paroles de Paul, pour retourner à ce qu'il dit aux Thessaloniciens et ce qu'il nous dit aujourd'hui, Paul, je l'ai déjà dit, veut que ces paroles soient des paroles de consolation. C'est un peu dommage qu'aujourd'hui, ces paroles alimentent la spéculation, alimentent des théories, notamment sur le soi-disant enlèvement de l'Église. Ce sont des théories qui bourrent le crâne et qui divisent l'Église. C'est un petit avertissement à ne pas trop passer trop de temps à faire des recherches sur l'Internet. Jésus est ressuscité et il reviendra. Et tous ceux qui mettent en lui leur confiance seront toujours avec lui. Comme Jésus l'a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est ça, les certitudes. Le reste, c'est spéculation. Le reste, c'est mystère. Évitons la spéculation. C'est pour le cerveau. Mais quand on a besoin de consolation, on a besoin des paroles pour le cœur, pour l'esprit, pour affermir notre confiance en Jésus. Consoler, c'est encourager la confiance en Jésus. Deuxièmement, c'est soulager la douleur. Paul dit là, dans le verset 13 de notre passage, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez point, pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » Notons-le bien, Paul ne dit pas que vous ne vous affligiez pas du tout. Non, Paul reconnaît la douleur de ses frères et sœurs. Il reconnaît la douleur de la perte, le déchirement, la séparation. C'est une blessure et ça fait mal. La tristesse, c'est normal. On ne peut pas l'enlever tout de suite. Paul dit plutôt qu'il ne veut pas que leur douleur soit trop aiguë. Il ne veut pas que leur douleur soit empoisonnée par le désespoir. Alors si Paul écrit, c'est pour soulager la douleur, pour que la tristesse ne fasse pas trop de dégâts dans leur esprit et peut-être dans leur vie. Et si nous retournons à Jésus, il a parlé à Marthe. Et maintenant, voyons comment Jésus fait face à l'affliction de tout le village. Je reprends la lecture dans Jean 11, à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec lui, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Et là, on voit Jésus accompagner les sœurs et le peuple du village dans leur deuil. Il les suit jusqu'au sépulcre. Il reçoit et il ressent leurs émotions profondes. Et cet exemple nous montre que quand nous sommes là pour consoler, il faut de la compassion, il faut de la solidarité. Jésus demande, où l'avez-vous mis? C'est une façon de dire, laisse-moi voir là où ça vous fait mal. Quand on veut consoler à l'autre, on lui dit en quelques mots, laisse-moi rester auprès de toi là où tu souffres. Tu peux partager avec moi. Et puis le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Le peuple reçoit les larmes de Jésus comme le signe qu'il partage leur perte et leur deuil. On pleure avec ceux qui pleurent. Pour consoler, il faut de la compassion. Il faut faire preuve de solidarité, mais il faut aussi une patience. Nous lisons dans ces lignes que Jésus avait sa propre émotion, qu'il ne montrait pas à la foule. Le texte nous dit à deux reprises, Jésus frémit en son esprit. Quelle était l'émotion de Jésus? Quelques commentaires disent que c'était une réaction de colère en lui-même, quand il voit les larmes désespérées du peuple inconsolable. Jésus se demandait, mais pourquoi ne croient-ils pas? Où est leur foi? S'ils croyaient, ils ne pleuraient pas. Il y a la colère contre l'incroyance, le désespoir. Et puis, les larmes de Jésus. Ce sont des larmes versées peut-être pour nous tous qui sommes prisonniers de la mort. Alors si Jésus, fils de Dieu, ressentait de la colère et de la frustration à cause de cette situation désolante, à cause de notre condition, il ne devait pas le manifester aux autres. Il ne pourrait pas comprendre. Cela nous dit qu'en consolant, il faut nous aussi parfois faire l'effort de nous retenir, de ne pas montrer notre propre émotion. Nos propres sentiments, surtout s'il y a de la frustration. Il faut une maîtrise, cette maîtrise de Jésus, pour rester au diapason de l'autre, à ses côtés, pour le soulager, pour le diriger doucement vers la lumière. Ce qui nous dirige doucement vers le troisième point. Le troisième aspect de la consolation. La consolation, c'est apporter une espérance. Apporter une espérance pour chasser le désespoir. L'espérance, c'est la voie de rassurance qui dit demain ou après-demain, cela ira mieux. Il y aura de la lumière. La lumière viendra. C'est ça, l'espérance. Pour revenir à l'enseignement de Paul, Paul rassure en annonçant que les morts ressusciteront quand Jésus reviendra. Et dans le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu plusieurs fois déjà, Jésus nous dit tout à la fin, « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Demain, bientôt, cela ira mieux. » C'est ça l'espérance. C'est une parole de consolation. Et dans l'histoire de Lazare, c'est vrai que la famille n'a pas dû attendre longtemps pour revoir Lazare vivant. Mais quand même, quand on lit l'histoire, on voit que Jésus a dû faire un effort pour rallumer chez la famille la lumière de l'espérance. Jean chapitre 11, à partir du verset 19, je reprends la lecture. Donc là, ils sont devant la grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre.
41.
Ça, c'est 39 dans ma Bible. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Tout le village est accablé, désespéré. Et c'est ce que fait la mort. La mort accable. Elle nous rend impuissants, fatalistes, inertes. C'est comme ça. On n'y peut rien. Les musulmans disent Maktoub. Or Jésus, pour allumer l'espoir, il pousse le peuple à sortir de cette impuissance, de cet abattement. Notons-le bien. Jésus n'annonce pas ce qu'il va faire. Ce que dit Jésus, plutôt, c'est qu'il dit au peuple ce que le peuple peut faire. Ôtez la pierre. Il pousse le peuple à faire un geste qui pour eux, qui pour lui, est insensé. Mais Jésus est là de l'espoir. Et Jésus pousse le peuple. Il pousse Marthe à croire en Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Consoler, c'est apporter de l'espérance là où il n'y en a pas. Consoler, c'est aider l'autre à voir la lumière au bout du tunnel. C'est aider l'autre à marcher pas à pas, petit à petit, vers la lumière. Et là, je quitte l'histoire de Lazare et de Jésus. On le sait, Jésus, il va faire un grand miracle. Mais aujourd'hui, à Paris, en région parisienne, il y a peu de miracles de ce genre. L'espoir n'est pas un miracle. L'espoir n'est pas un miracle. L'espoir est en Jésus. Un miracle, ce n'est qu'un raccourci, ce n'est qu'un moyen de raccourcir le chemin. S'il n'y a pas de miracle, cela veut dire que le parcours est plus long et qu'il faut faire le parcours. Mais le but est le même. La vie avec Jésus. L'espérance reste. L'espoir de Jésus reste. Jésus sauve. Il transforme. Il restaure. Aujourd'hui. Et tous ceux qui mettent en lui leur confiance vivront avec lui pour toujours quand il reviendra. C'est cela l'espoir, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à vivre cet espoir, avec des gestes d'espérance. Et la consolation, c'est aussi encourager les autres personnes à avoir de l'espoir, quels sont les gestes d'espoir que nous faisons aujourd'hui. C'est pas d'aller sur le cimetière et d'enlever toutes les pierres, non. Excusez-moi, c'est l'humour anglaise, un peu noir. Quels sont les gestes d'espérance pour aujourd'hui? Tout à l'heure, on a entendu, on aura l'espoir, si on a l'espoir d'avoir dimanche prochain une église propre, il faut quelqu'un pour faire le geste. Vous comprenez? Nous sommes appelés à combattre le désespoir, à combattre l'insécurité où nous plonge le désespoir, à combattre tout cela par la consolation de l'espérance. Il y a beaucoup de gens, surtout en région parisienne, qui ont peur, pas mal qui n'ont pas d'espoir. Les gens sans espoir ont peur peut-être de sortir. Nous, par la foi, on sort et on leur ouvre la porte. Les gens sans espoir, ils ont peut-être peur des étrangers. Les gens sans espoir se méfient des étrangers. Nous, par la foi, on peut accueillir les étrangers, les côtoyer. Les gens sans espoir vont se retirer. Ils auront peur de manifester. Nous, par espoir, nous pouvons manifester. Consoler, c'est encourager le frère ou la sœur à avoir l'espoir et le courage de sortir, de s'ouvrir, de s'exprimer, de partager. Quand les gens qui ont peur se retirent. J'espère que je me fais bien comprendre. N'ayons pas peur, ayons de l'espérance. Et là, je conclue par répéter les idées clés du message ce matin. Consolons-nous les uns les autres. Consoler, c'est venir aux côtés d'un frère ou d'une sœur, se rendre proche de lui ou d'elle pour lui parler, pour parler à son cœur. Et consoler, c'est dissiper l'ignorance en apportant la foi, la confiance en Jésus. Consoler, c'est soulager l'affliction pour qu'elle ne tombe pas dans la maladie. Consoler, c'est apporter l'espérance pour chasser le désespoir. Si vous le voulez bien, je vais répéter la parole du chant que j'avais cité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Et prenons ces paroles comme une prière pour nous aujourd'hui et dans les jours à venir. Alors si vous voulez bien, prions ensemble. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur Jésus, notre frère, notre sauveur, notre roi, ce n'est que par ton esprit que nous pouvons faire cela. Alors console-nous, dirige-nous, et aide-nous à être tes témoins. En ton nom, nous prions. Amen. Amen.